d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous sommes en direct dans nos studios. Enfin, le déconfinement se finit un petit peu pour nous en ce moment. Voilà, donc c'est une émission qui va encore tourner autour du chômage, de la précarité et de tous les sujets qui fâchent en ce moment, les bavures policières, etc. etc. Donc, nous avons effectivement, la semaine dernière, le Conseil d'État a retoqué deux dispositions liées à l'assurance chômage. Il a rétorqué le recalcul des droits pour les chômeurs, puisque avant les chômeurs avaient un certain nombre de droits, et aujourd'hui c'est la moitié des droits qui sont partis, puisque apparemment c'est sur 6 mois, il faut qu'ils aient travaillé 6 mois, mais s'ils sont intermittents, c'est 6 mois, mais c'est uniquement qui prend en compte, c'est les moments travaillés. C'est-à-dire que si vous avez travaillé 6 mois, mais que sur les 6 mois vous avez travaillé que 3 mois, enfin, vous déclarez 6 mois de travail, mais voilà, c'est divisé par deux. Merci Ludo. Donc ce soir, je reçois Alain. Bonjour, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Merci de prendre ce micro avec nous pour cette émission. Donc toi, tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé au niveau effectivement du Conseil d'État. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots en premier lieu? Est-ce que tu en as ressenti et c'est encore effectivement une position très libérale apparemment qui a été prise voilà, dis-moi un petit
oui.
peu.
Tu as déjà expliqué un peu, là, je viens de t'entendre, etc. Oui, auparavant, le salaire journalier de référence était calculé sur les jours travaillés, on divisait, etc. Tandis que maintenant, dans une certaine période, on considérait et les jours travaillés et les jours non travaillés. Pour les gens qui travaillent en intermittence, les intérimaires, etc., il est clair que la méthode de calcul est différente. Le diviseur étant plus grand, le salaire journalier s'effondrait carrément pour certains chômeurs, notamment les chômeurs, les intermittents du boulot, quoi. Ça divisait leur salaire, certains, quasiment par deux. Alors c'est inadmissible. Alors le Conseil d'État, sur les juristes pointus, ils ont décidé qu'il y avait discrimination. Il y avait des chômeurs qui touchaient un salaire journalier de référence calculé d'une certaine façon, et pour d'autres, on avait une autre méthode de calcul. Donc c'était discriminant pour certains demandeurs d'emploi. Donc le Conseil d'État est revenu là-dessus. On est retourné à l'ancienne méthode de calcul du salaire journalier de référence, et bon, ça donne des allocations qui sont pas extraordinaires, mais avec l'ancienne méthode de calcul qu'ils ont essayé d'imposer, c'était évidemment catastrophique. C'est-à-dire que les indemnités sont pas grosses, mais là, on poussait carrément les gens dans la misère. Quoi.
J'ai une question, c'est Ludovic au micro, parce que ce qui nous étonnait, nous, c'est pourquoi finalement le Conseil d'État a jugé si tardivement. Parce que j'imagine que le Conseil d'État, il contrôle en fait la légalité des actes du gouvernement. Et là, c'est un recours que vous avez porté, vous. Il a fallu que vous posiez un recours pour qu'il a rendu un avis quand même sévère.
Surtout à CGT, syndicat solidaire, et puis un autre syndicat qui ont posé un recours devant le Conseil d'État. Mais ça, c'est vrai que bon, j'étais devant le Conseil d'État, on a fait une manifestation. C'était il y a 6 mois de ça. Hein. Ouais. Tu sais, 6 mois de délai pour une décision administrative au Conseil d'État, si tu avais affaire à l'administration, tu sais bien que ça allait énormément plus vite. Et finalement, les syndicats ont obtenu une victoire notable en plus de 6 mois. Ben, c'est pas si
mais
bien,
le confinement, il passait par là aussi, Alain.
Ah ouais, c'est la question. C'est est-ce qu'il a jugé aussi en fonction du confinement et tu sais, des problèmes vraiment de l'augmentation du chômage et des gros problèmes qui s'annoncent quoi, pour les chômeurs les précaires.
Je ne peux pas te dire, je suis pas Conseil d'État. Il est probable que l'aggravation de la crise qui s'annonce et le chômage qui va exploser a peut-être influencé quelque part la décision du Conseil d'État, parce que même les organismes officiels prévoient pour 2021, c'est-à-dire demain, au minimum un million de chômeurs en plus. Donc on a déjà tous les chômeurs additionnés, toutes les catégories, au moins 6 millions de chômeurs. Courant 2021, on va avoir 7 millions de chômeurs. Alors si en plus on réduisait les maigres droits des chômeurs déjà en place, oui peut-être ils ont jugé que la situation pouvait devenir explosive, alors ils ont lâché un peu d'huile dans les rouages.
Je dis ça parce que l'avis du Conseil
des hauts fonctionnaires.
Je dis ça parce que l'avis du Conseil d'État, moi c'est quand même assez sévère, parce que c'est une différence de traitement manifestement disproportionnée au motif d'intérêt général
la formule, ce que je dis tout à l'heure, mais enfin, tu donnes là la formule exacte du Conseil d'État. Oui.
Voilà, c'est atteinte au principe d'égalité, car les mêmes heures de travail pour un chômeur conduisent à une indemnisation du simple au quadruple en fonction des périodes non travaillées entre les périodes de travail. Tu vois. Et donc, voilà. Il aurait pu rendre cet avis plus tôt quand même.
Oui, c'est clair.
Contrôler la légalité de ce que fait le gouvernement. Mais c'est un avis, hein, mais voilà. Parce que ça explique, ça implique quand même que les associations de chômeurs sont obligées de contester. Bon, c'est le jeu normal de la démocratie, mais enfin, de porter un recours. On n'est pas non plus les associations les mieux armées. Enfin, voilà. Si, on peut le faire, en fait. Hein, tout le monde peut. Mais voilà, ça demande un combat, une lutte pour des choses qui nous paraissent aller de soi, quoi. Et qui étaient évidemment très, très iniques, quoi, au départ.
En fait, ils ont donc le Conseil d'État donc a retoqué la disposition du recalcul des droits. Donc effectivement, ça passe carrément. Les chômeurs vont perdre carrément 50% éventuellement de leur indemnisation
avant la décision. Oui,
avant la décision, c'est ça. Mmh. Et mais également une autre. Alors on va reparler. On en reparlera sans doute après par la suite. Mais ils ont également retoqué les dispositions de bonus-malus pour les entreprises qui emploient trop de CDD. Donc ça veut dire qu'ils ont supprimé ce alors que c'était quand même, je crois de mémoire,
c'était une avancée, oui,
une avancée quand même assez importante, et d'autant que c'était Macron qui en avait parlé au départ, je crois.
Mais je crois qu'il y a un effet Covid là aussi.
Ah, okay. ton opinion là-dessus, Alain, éventuellement, si tu suis un peu l'histoire
non,
de.
Non, mais bon, il est clair que Macron est très favorable aux entreprises et il cherche à leur permettre de dégager un maximum de profits. Donc, et d'une certaine façon. La précarité augmentant, oui, les entreprises sont positionnées de force pour embaucher sur des contrats très courts. On a quelquefois des contrats d'une semaine, voire moins d'une semaine. Et c'est clair que les entreprises en ont abusé. Alors, d'une certaine façon, le gouvernement Macron voulait officieusement les pénaliser. Bon, il est revenu un peu là-dessus parce que, bon, il a vraiment subi quelques pressions de la part du BDF et de ses amis, oui. Mais bon, on sait bien que la politique de Macron, c'est un libéral féroce, il fait tout pour augmenter les profits des entreprises. La fiscalité des entreprises a aussi énormément diminué, quoi. Et la relance, là, bon, j'ai écrit l'article là-dessus, mais je n'ai pas les chiffres en tête, a été extrêmement favorable aux entreprises, quoi.
Oui, il y a beaucoup de gens.
L'alternative économique parle de 200 millions d'euros qui ont été donnés comme ça pour favoriser la reprise en finançant les entreprises, pas en augmentant les allocations des chômeurs, évidemment.
D'accord.
Oui, c'est le risque, c'est que finalement, quand on parle de relance ou même, je sais pas, d'épargne pendant le confinement, parce qu'on a souvent agité un chiffre magique pour dire qu'il y avait des gens qui avaient épargné, mais bien sûr que le RSA, le SMICAR, lui, il épargne pas, il est pendant le confinement, il est juste à la limite. Donc forcément, et sans parler évidemment de tous les gens qui perdent leur travail, quoi, ou qui sont en chômage à temps partiel. Donc là, forcément, il y a deux poids deux mesures, parce qu'on pourrait estimer qu'il faut soutenir la consommation au moment de la relance, en fait, hein, et que ça passe par une équité entre les entreprises et les consommateurs que nous sommes, même quand nous sommes au RSA ou SMICAR éventuellement.
Alors moi dis-moi là, j'ai juste pour que ce soit que les auditeurs, moi-même d'ailleurs, comprennent bien la situation. Donc par rapport au recalcul des droits, je vais donner un exemple, hein, je suis intermittent du spectacle, je commence mon premier contrat de 10 jours en janvier. Je fais différents contrats pendant 6 mois et le dernier se fait en juin. Donc j'ai mes 6 mois de contrat en fait, hein, mais dans les 6 mois, je n'ai fait que 12 contrats. Ça veut dire qu'au moment où je me dépose, je vais au Pôle emploi, ils acceptent de me prendre pour être indemnisé, mais ils ne me payent que sur les 10 jours ou 12 jours travaillés. C'est bien ça l'histoire ?
Oui, oui, oui. Ça, mais...
D'accord.
Oui, avant, les jours travaillés, on divisait, on avait le salaire journalier. Maintenant, c'est les jours travaillés et les jours non travaillés. Je te dis tout à l'heure, oui. Le diviseur étant plus grand, évidemment, l'indemnité journalière chute énormément, quoi.
C'est ça.
Tout simple, mais tout ça, c'est pour. Pour dire brutalement, il s'agit d'affamer les chômeurs, d'augmenter les effectifs de l'armée industrielle de réserve, comme disait un certain Barbu, oui. Et les obliger à accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, quoi. Oui. En les obliger à traverser la rue pour faire le trottoir et pour le plus grand bien des entrepreneurs. C'est la logique capitaliste qui est mise en branle par Macron. Il n'y a pas besoin d'avoir lu la totalité du Capital pour comprendre, quoi. C'est ça, quoi.
Oui, il y a une question de sous aussi, hein, j'ai l'impression, parce que je crois que Macron, il voulait faire des économies vraiment, parce que ça rapportait beaucoup quand même, hein, à l'UNEDIC, et sur le dos des chômeurs, quoi. Là, il n'y a pas obligé de.
Oui, mais depuis quelques décennies, plus il y a de chômage, moins les chômeurs sont indemnisés. C'est quand même parce que dans le rapport de France Capital Travail, c'est aujourd'hui le capital qui tient l'écart, qui a la bonne note, etc. C'est vraiment évident, quoi. Bon, et j'espère que vous avez changé un peu de sujet. Vous avez parlé un peu de la manifestation de demain.
Justement, c'était la question qui suivait. On allait poser la question. C'est demain. Il y a donc une manifestation des chômeurs. Alors qu'il commence à Porte des Lilas.
Métro Mairie des Lilas à 14h, c'est ça. Oui. Donc demain, voilà. Donc c'est à propos de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, hein, on est bien d'accord. Donc tu veux nous en dire deux mots de cette manifestation? C'est toi qui es.
Moi, je ne sais pas si j'étais pensé comme ça. Moi, je parle et j'y serai demain pour agir ensemble contre le chômage, oui. Et je pense que ça va être une manifestation assez réussie, parce que tout le monde a conscience que la situation sociale devient franchement dramatique. Je l'ai dit, on attend au bas mot 1 million de chômeurs en plus en 2021.
Exactement.
Sans compter ceux qui passent à travers la comptabilité, les statistiques, etc. Ça va nous faire 7 millions de chômeurs. 7 millions de chômeurs, ça fait 20 à 25% de la population active qui est en France, qui est 27 ou 28 millions, etc. Oui. Ça devient énorme, c'est inédit. Historiquement, on n'a jamais vu 20%, peut-être 25% de la population active au chômage.
Oui.
D'accord ? Et il y a nombre de gens qui vont perdre leurs allocations chômage, même si elles sont maigres, qui vont basculer vers le RSA et la SS. Encore la SS, il y a des conditions, mais la CAF voit bien, les départements donc vont affluer les gens qui viennent demander à RSA parce qu'ils n'ont même plus le droit aux allocations chômage. Et je crois qu'avec les familles, les dépendants, le RSA, ça concernait 3 millions de personnes, c'est-à-dire les parents, les enfants, les couples, etc. Donc ça va augmenter de façon extrêmement forte. Et c'est le département qui paye. Et du côté département, ça va aussi poser des problèmes, quoi. Mais bon, tout le monde connaît le montant du RSA. Oui. Je crois que c'est 562 trucs. Alors vivre avec 560 euros en région parisienne, notamment...
C'est impossible, c'est carrément impossible.
Non, c'est plus des pauvretés, c'est de la misère, carrément. D'abord, le secours catholique et le secours populaire voient affluer des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant.
Oui.
Il y a des gens, tout simplement, du mal à bouffer. Je dis bien à bouffer. Dans un pays comme la France, avec un PIB qui dépasse les 2000 milliards d'euros. Donc, c'est incroyable, quoi. Alors, la manifestation de demain, on va parler de ça et diverses choses. Il risque d'y avoir du monde. Je regrette un peu que la manif pour les libertés, la marche pour les libertés, ait lieu le même jour.
Oui.
Donc, l'itinéraire a un peu changé et nous partons de la Porte des Lilas. Nous allons rejoindre la marche pour les libertés à la République. On va arriver à 15h30. Si c'est une grosse manif comme ces derniers, il y aura encore du monde. On prendra probablement la queue de manifestation de la marche pour les libertés.
En même temps, c'est un peu lié. Hein.
Oui,
je veux dire, plus il y a de pauvreté, plus il faut un contrôle policier fort.
J'en profite pour rappeler quand même que c'est une manifestation pacifique, on est d'accord, pas de souci.
On ne sait pas. Tu peux éventuellement.
Est-ce que vous aurez une délégation à la fin de la manif pour aller rencontrer éventuellement des personnes, à Pôle emploi?
Ma connaissance, non.
Non.
Reçu par un ministère ou quelqu'un du ministère. À ma connaissance, non. Je ne sais pas si les syndicats, je ne crois pas. Et puis obtenir une entrevue, prendre un rendez-vous, etc. Enfin, c'est la 18e marche,
je ne
dis pas. Et dans les marches précédentes, non, nous n'avons jamais été reçus par le ministre ou le cabinet du ministre, etc. Non, jusqu'à présent, donc.
On devrait essayer.
Bon, après, dans les jours qui suivent, il y aura peut-être des demandes de rendez-vous dans le ministère, etc. Mais le jour même, donc, à ma connaissance, non.
Mais alors, du coup, quelles vont être les revendications? Tu peux peut-être nous parler des revendications d'ACE, c'est-à-dire parce que pour nous, ça ne suffit pas.
Les revendications d'ACE, j'aime bien dire que ça fait à peu près 25 ans que nous avons les mêmes revendications. Il y a plus de 20 ans, en tout cas, nous réclamions les 32 heures hebdomadaires. Bon, compte tenu des gains de productivité, à mon avis, on pourrait faire moins. Et aussi, pour voir que les chômeurs soient laissés dans la misère, nous disions qu'aucune allocation ne doit être inférieure au SMIC.
Oui.
Bon, je parlais tout à l'heure, survivre en région parisienne avec 500 euros, c'est difficile. Avec le SMIC, il doit être à 1200 nets, c'est ça, quoi? Bon, c'est pas, on n'est pas très riche non plus avec 1200 nets. Et on voit pourquoi les chômeurs devraient vivre avec moi, ce qui est considéré comme un salaire minimum permettant de vivre chichement, sans aucun luxe, etc. Alors, comme on veut, les chômeurs gardent une certaine décence économique, depuis plus de 20 ans, on dit qu'aucune allocation devrait être inférieure au SMIC.
Bien sûr.
Voilà. Et puis, savoir aussi, vous savez, seulement, on parle beaucoup, les chômeurs coûtent cher, etc., mais moins de la moitié des chômeurs sont indemnisés par l'UNEDIC. Moins de la moitié des chômeurs, hein. Moins de la moitié, 47%, quelque chose comme ça, quoi. Mmh. Et pour une allocation moyenne qui tourne autour, ça dépend des méthodes de calcul, ben ça dépasse pas beaucoup les 1 000 euros mensuels. Pour ceux qui sont indemnisés, grosse moitié n'est pas indemnisée. Enfin, ils sont au RSA, en ASS, etc., quoi. Mmh. Donc, c'est de ça qu'on va parler demain. Évidemment, ça s'aggrave tous les jours. Et puis aussi, j'en ai parlé un peu, et puis je l'ai écrit un peu. Il y a une révolution numérique, une révolution technologique qui, sauf au changement radical, va provoquer énormément de chômage. Oui. Énormément. Oui. La 5G, par exemple. Bon, c'est pas mal contesté, la 5G. Mais va permettre une accélération de la robotisation et de l'informatisation des sociétés.
Oui, des sociétés.
Évidemment, c'est pas bon pour l'emploi. On pourrait imaginer que la robotisation, l'automatisation permettent de travailler moins, donc réduit le travail, tout le monde travaille. Mais dans une optique et du moralité capitaliste, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non, il y a une énorme menace sur l'emploi, y compris les emplois qualifiés. C'est pas la robotisation du travail à la chaîne, des OS au chirurgien. Non, il y a des emplois qualifiés, qui parlent même des médecins, des journalistes, des pharmaciens, etc. L'intelligence artificielle va leur piquer le boulot. Je le dis comme ça, c'est pas tout à fait ça se passer. Mais donc, et j'ai l'impression que les syndicats et les partis politiques, ils prennent pas tout à fait la dimension du problème, là. Voilà, il faudrait, alors les 32 heures, par semaine, c'est un minimum, on pourrait faire beaucoup moins et faire en sorte que la robotisation, l'intelligence artificielle soit mise au service de la société, travailler moins, garder les salaires décents et non point. Et là, ça va permettre de grossir les dividendes et d'augmenter de façon faramineuse les profits. Donc il faudrait qu'on ait une réflexion là-dessus et assez ailleurs où on n'avance pas très vite sur cette réflexion.
Voilà, on est en même temps, c'est
la troisième révolution industrielle, sauf au changement radicaux intéressant, va provoquer beaucoup de dégâts. On peut assister à une quasiment, comment dire, à une partition de la société. Alors une minorité de salariés hautement qualifiés, voilà, qui vont sortir bien, mais il y aura une énorme majorité de gens dont les emplois vont être détruits et qui vont être carrément laissés pour compte, quoi.
Oui.
Et il y a, comment ça s'appelle, la madame, bon, ça ne revient plus pas son charlot, là. Elle a donné des entretiens, elle a créé un livre là-dessus. Il y a peut-être quasiment la moitié de l'humanité dont le capitalisme n'a plus besoin. Dont le capitalisme n'a plus besoin. Alors, il y a peut-être une tentation d'un eugénisme discret, ou en tout cas de laisser pour compte, éventuellement quelques miettes pour qu'ils puissent survivre et rester tranquilles, mais il y a toute une partie des salariés, des travailleurs, dont on n'a plus besoin, et ça va s'aggraver. Sauf à aller vers une réduction radicale du temps de travail, voilà. Mmh. Bon, voilà.
Mais que fais-tu de la baisse tendancielle du profit de Karl Marx? Parce que c'est ça aussi qui asphyxie nos sociétés modernes. C'est aussi que finalement, les sociétés font moins de profit que... C'est ça, on le voit dans les cycles décroissants, hein, de croissance qui finalement, tous les 10 ans, baissent en fait. Hein. On est à 1% de croissance sur 10 ans, par exemple, et on était à 2% avant. Et donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence féroce entre des acteurs économiques, y compris des pays d'ailleurs, donc finalement, qui grattent un peu à chaque fois pour essayer de dégager un peu plus de profit.
Et qui vont chercher du personnel dans les pays sous-développés pour les payer
aussi,
moins cher.
Oui, qui délocalisent aussi. Et donc, du coup c'est une vraie question. Quoi. Il y a une remise aussi en question peut-être du modèle concurrentiel dans lequel on est, éventuellement, ou alors d'une redistribution du patrimoine. Je dis ça, ou du capital. C'est une question que je pose, hein, parce que c'est vrai que comme on est quand même très centré sur des débats, des chômeurs, sur la consommation, sur la rémunération, en quelque sorte, ou sur le niveau de vie, enfin voilà, peut-être qu'aussi il y a d'autres pistes à chercher, quoi, que le simple revenu.
Mais de mémoire, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai pas un salarié quand il travaille, il donne de l'argent, il donne un pourcentage un pourcentage aux ACEDIC. Enfin donc, voilà, il y a la santé, il y a le veuvage, enfin il y a bon, il y a un pourcentage.
Sauf s'il est désaffilié.
Il y a 6,8% je crois qui sont partis dans les charges sociales.
La moitié de ton salaire part dans les charges sociales.
C'est ça.
Et donc sur la moitié des charges, la moitié part à la retraite, mais il y a quand même un souci concernant les chômeurs. Et justement, les précaires, c'est que du coup, ils cotisent beaucoup moins.
Oui, mais ils cotisent à 6,8%, je crois, du salaire.
Alors, je ne sais pas combien ils cotisent, mais en tout cas, oui, c'est sur leurs indemnités. Donc, mais justement, la réforme de Macron visait à faire baisser la part.
La part salariale du salarié.
Exactement, la part salariale, à baisser l'indemnisation et à prendre en charge, en fait, par l'État, l'indemnité du chômage, et ce qui lui permettait de lui dire qu'en fait, c'était une. Il faisait de l'assistance et non plus. C'était plus un régime de solidarité.
D'accord.
Et voilà.
Mais oui, mais on se dirige vers ça. Hein. Oui. Le paritarisme n'a plus guère de sens. Les chômeurs ne peuvent plus, les cotisations au chômage ont été supprimées. Bon, c'est la CSG qui compense, etc. Mais ce qui veut dire que dans la négociation syndicat patronat avec le gouvernement en dernière instance, ce qu'on appelait le paritarisme, ce n'est pas excellent, mais ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui reste à négocier au syndicat, par les syndicats?
Là, il négocie encore au sein des entreprises, quand même, je pense, quand même.
Il négocie quoi au sein
des entreprises? Le chômeur pourrait dire, j'ai cotisé, donc j'ai le droit au chômage, puisqu'il ne cotise plus.
Ah oui, voilà.
Non, mais c'était une ruse, ça. C'est passé relativement douce, mais c'était vraiment une ruse, quand même.
Oh non, on en a parlé quand même, mais c'est vrai qu'à chaque fois que ça parle des chômeurs, tout de suite, ça devient un soi-disant sujet marginal, alors qu'en fait, ça concerne énormément de gens, tu l'as dit, 12 à 15% de la population. Mais du coup, effectivement, le problème, c'est aussi la protection sociale des chômeurs, parce qu'on aborde assez peu le problème. Alors évidemment, il y a la CMU, il y a des dispositifs en termes de sécurité, de santé. Par contre, en termes de retraite, je crois qu'on possible un trimestre sur deux,
un
semestre sur deux. Et donc, en termes de... C'est ça qui est en train de se produire, c'est que finalement, il y a un retour de la pauvreté des personnes âgées, duquel on était sorti. Dans les années 70.
C'est amélioré. Mais là, dans quelques décennies, il y a de nombreux travailleurs qui ont eu des carrières hachées, etc., qui seront au minimum 10. Maintenant, ça ne s'appelle plus minimum 10. Il a changé de nom, mais c'est le minimum 10, quoi. Oui, dans quelques décennies, on va voir ça, quoi. Et bon, c'est une incitation aussi, pour ceux qui ont les moyens, à aller vers la retraite par capitalisation.
C'est ça.
Puisque la retraite sécu... contributif, comment ça s'appelle, à risque d'être faible, tout le monde, enfin les salariés qui ont un peu le moyen d'économiser, eh bien ils vont essayer de se constituer un capital, bon, acheter un appartement, une location, acheter des actions d'entreprise, spéculer sur un truc, ça machin. Mais bon, c'est plus tout la même chose. Hein. Et idéologiquement, qu'on dirait que ces gens qui économisent, qui capitalisent pour leur retraite, évidemment ils vont avoir une petite mentalité capitaliste. Ah, ça a l'air de rien. C'est l'idéologie qui est derrière ça aussi, quoi. Par capitalisation.
Franchement,
ils savent que leur retraite classique salariale n'a pas été extraordinaire, alors ils vont être tentés d'investir.
Ça marche pas beaucoup, ça marche pas très bien, ça.
C'est que
ça concerne pas la majorité des gens. Je veux dire, c'est très compliqué quand même. Aujourd'hui, t'as des surcomplémentaires, t'as les lois Madelin, le Bon. Mais finalement, c'est même pas pour les gens qui ont de l'argent, c'est même pas le produit préféré. Le produit préféré, c'est l'assurance vie. Tu vois, c'est des choses, parce que c'est des systèmes dont les gens ont quand même l'intuition que ça n'a pas toujours très bien fonctionné aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des pertes de revenus secs en fait aux États-Unis du fait des variations de la bourse. Et bien sûr que le gouvernement serait favorable à ce genre de truc, mais finalement ça concerne déjà ceux qui peuvent se constituer une épargne. Et c'est pas, il n'y a pas tant de gens que ça. Et ensuite c'est d'une efficacité moindre. Donc quand on avance en fait la retraite par capitalisation, en l'état, j'ai l'impression qu'en France on n'est pas vraiment concerné encore par ça. Et heureusement d'ailleurs, dire. Mais par contre, on reste concerné par la baisse des retraites générale.
Oui, c'est pour ça qu'il y a une tentation d'aller vers la retraite par capitalisation. Même, je ne vais pas dénoncer personne, mais dans mon entourage, je sais, bon, il y en a qui, heureusement pour eux, enfin, ils ont été malins, ils ont une retraite qui n'est pas terrible, complémentaire petite aussi, mais ils sont constitués de retraite par capitalisation. Mais oui. Tellement que ça fait 20 ans qu'on parle, on n'aura pas le moyen de payer la retraite, il y en a qui ont anticipé. Et maintenant, ils ont le mandat de retraite parce qu'ils ont les revenus du capital. Voilà.
Ouais.
Mais des gens qui sont proches, hein, je dans ces personnes, mais voilà, ils ont été beaucoup plus bien que moi, à dire vrai. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Alain, en tout cas, pour ton intervention.
Alors, vous faites encore les appels pour demain.
Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Donc, pour tous ceux qui veulent se lutter contre l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, donc c'est demain, le 5 décembre, en Ile-de-France, à 14h, au métro Mairie des Lilas. Venez nombreux.
Porte des Lilas.
Porte des Lilas, oui. Ah, j'ai marqué Mairie des Lilas sur, la,
c'est
sur
porte
le...
Porte des Lilas.
Porte des Lilas, pardon, excusez-moi. Oui, Porte des Lilas, exact.
Okay. À 14h.
14h, merci
à
Alain.
À 14h.
À
demain.
Ciao.
Tu restes ma way.
Eh oui, ça swing dans ce studio. C'était bien sûr Il faut vivre vite. De, pour ceux qui connaissent, c'était Small, donc Eddie Mitchell. Très belle chanson. On va reprendre cette émission. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi avec Ludo au micro. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Gilles est également présent, c'est moi-même. Et bien sûr Claude à la technique. Et au téléphone, bien sûr Christophe. Bonjour Christophe.
Bonsoir.
Gilles est également présent. Bon. Ah, on a le retour. Ah, bah là, je crois qu'il faut que tu coupes ton retour parce qu'on entend tout.
Absolument, je coupe mon retour. Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà.
Je ne pouvais pas être devant vous, mais le qui arrivait. Mais écoute, j'ai écouté avec attention l'intervention d'Alain et il pose des chantiers du futur pour ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde vis-à-vis du capital, c'est-à-dire la répartition du temps de travail pour avoir une dignité pour tous et puis un salaire de remplacement pour ceux qui n'ont pas des moyens décents pour vivre, quoi. C'est-à-dire le revenu universel. Et en fait, par rapport à ça, je voulais intervenir. Parce que c'est d'autant plus activé, si vous voulez, tous les deux, d'autant plus d'actualité qu'il y a là une note très intéressante qui est parue donc le 28 novembre par l'Observatoire des inégalités de Louis Morin, donc, qui est un statisticien, et qui en fait, chiffre à l'appui, fait un petit peu le même constat que Agir ensemble contre le chômage et les différents syndicats et organisations et associations représentatives de chômeurs qui font manifester demain. C'est-à-dire que, pour lui, hein, je cite ces éléments, hein, en 2018, on comptait statistiquement 5,3 millions de pauvres en France. Hein. Et puis, lui, il s'est interrogé sur, il y a le coronavirus qui est passé par là, où on en est. Eh bien, en fait, il s'avère que ça n'a pas eu tout avec les mesures qui ont été mises en place, le chômage partiel, le revenu des suppressions de charges, des reports de crédit, des aides pour les entreprises. Il s'avère que ça n'a pas touché 80% des personnes, en fait, qui n'ont rien vu venir quasiment en perte. Par contre, il y a les 20% restants dont les conséquences sont d'un autre ordre. C'est-à-dire tous ceux qui avaient un emploi à temps partiel, peu qualifié, ce qu'on appelle plus ou moins les gens qui sont dans les couches de pauvreté, c'est-à-dire qui ont des niveaux de qualification inférieurs et autres. Et là, à court terme, l'effet s'est profondément fait sentir parce que il fait les mêmes analyses que notre ami Alain, à savoir qu'il y aura facilement 400 000 à 1 million de chômeurs en plus, avec des baisses significatives de revenus. Puisque parmi tous ces emplois et revenus, il dit que la précarité du travail, en fait, elle s'est généralisée. Et ceux qui sont le plus touchés par ce phénomène du coronavirus, là, je vous pose la question, à votre avis, c'est qui?
Ah bah c'est forcément, je dirais les gens qui ont des petits logements. C'est-à-dire, je dirais ça, les gens qui ont des petits logements et qui ont des difficultés à respecter justement à l'intérieur les gestes barrières, les choses comme ça.
Et ceux qui n'ont pas de logement non plus. C'est-à-dire
parmi les gens qui sont donc actifs, je repose ma question pour vous, quelle est la catégorie de la population?
Il y a aussi les travailleurs, oui. Ça, il y a aussi les travailleurs en contact.
Temps partiel ou temps complet, etc. Question de ceux qui vont assumer à plus ou moins long terme les effets de cette crise.
Ceux qui ont le moins de diplômes et qui sont les moins rémunérés, non? Les catégories
C. Ceux qui sont au front du Covid, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les supermarchés, par exemple.
Mais oui, en partie, mais cette étude
Mais tous les métiers qui sont liés à un public, éventuellement
Non. D'accord. En fait, il s'est rendu compte, statistique à la clé, au-delà de l'aspect du diplôme qui est très important en France sur le marché du travail, hein, qui est un totem, il s'est rendu compte que ceux qui supportent aujourd'hui le plus la précarité, c'est mécanique parce que la précarité et les CDD, tout ça, ça a une histoire. Hein. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est les jeunes. C'est les jeunes qui vont supporter le plus.
Oui, les conséquences économiques, tu veux dire.
Majoritairement, si tu veux, c'est les primo-accédants au marché du travail, c'est les 18-30 ans qui supportent le plus les contrats à temps partiel. Et donc des contrats précaires.
Il faut donc qu'ils continuent leurs études, tant que le Covid...
Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que 80, effectivement... Alors, c'est déjà les classes populaires qui vont prendre tous les effets de la crise dans la figure, puisque 81% des plus pauvres en France sont ceux qui subissent le plus le déclassement, la disqualification et puis l'ensemble des revenus à mettre en place. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, au DASA, ce qu'il dit, c'est que cette petite note, elle nous apprend également plusieurs choses. D'abord, elle nous apprend que, on s'en doutait, le gouvernement actuel, il aurait, paraît-il, réduit les inégalités. Et ben, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en 2018, avant d'être dans le revenu, si tu veux, avant d'être dans les chiffres de la pauvreté, c'était 963 euros en moyenne. Là, maintenant, c'est 938 euros. Donc, il y a un baisse de revenus des classes populaires qui est clairement marquée. Hein. Même s'il y a eu, c'est une pauvreté qui ne se résorbe pas. Et en fait, il milite pour la place, la mise en œuvre d'un revenu minimum unique. Parce que, d'abord, ça coûterait pas énormément. Hein. Ça coûterait 9 milliards d'euros. Et ça pourrait s'adresser aux 18-24 ans qui auraient les possibilités de consommer et tout. Ça serait aussi une forme de relance de l'économie, mais de l'économie réelle. Et ça, et quand on dit que ça va coûter énormément d'argent, non, par rapport aux aides des entreprises qui ont été débloquées, ces 9 milliards, 10 milliards d'euros changeraient beaucoup de choses et beaucoup le niveau de vie des plus modestes. Voilà.
Et à combien c'était quelle somme, ce revenu minimum
C'est 900 euros, à peu près.
900 euros, d'accord. Très bien.
Voilà. 900 euros, c'est-à-dire qu'il a dit 7 milliards d'euros suffiraient pour créer un revenu minimum unique, assurant à tous les plus modestes 900 euros par mois pour vivre. Ça permettrait de donner ces personnes sur leur bord de la route. Ce n'est pas une recette miracle contre la pauvreté qui ne fait qu'amortir. Au passage, ce minimum social serait fixé au-delà du seuil de pauvreté de 50% du niveau de vie médian. Le taux de pauvreté serait théoriquement nul et la pauvreté éradiquée. Alors, ça serait une hausse de niveau de vie d'environ 150 euros mensuels en moyenne aux allocataires du RSA.
Oui. Hein.
Et aux allocataires de scénarités spécifiques, c'est pas énorme, hein. Et ça serait surtout un revenu minimum social qui a été refusé jusqu'à maintenant pour les 18-25 ans. Hein.
Mais Christophe,
c'est pas la panacée, mais on a les moyens en France du fait qu'on est un des pays les plus riches du monde, et au niveau européen, on a les moyens financiers et économiques de le faire.
On faisait la demande, éventuellement, certains syndicats, etc., ou mouvements politiques, hein, les partis politiques, faisaient la demande pour un RSA pour les jeunes. Donc ça pourrait remplacer le RSA pour les jeunes, alors, pour le coup.
Oui, ça sera un revenu minimum unique.
D'accord.
Et, que ça soit en termes économiques, c'est-à-dire de consommation quotidien, ça ne résoudrait pas tous les problèmes, parce que en Île-de-France, avec 900 euros, on vit chichement, on n'est pas dans l'opulence, c'est pas vrai. Mais ça éviterait peut-être pas mal de drames. Hein. Et ça serait une amélioration pour toute une partie de coûts de la population. Et ces milliards-là, la France les a. Hein. C'est-à-dire que là, il y a eu quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés dans le cadre de la crise du coronavirus. Je rappelle qu'il y a un plan de 100 milliards d'euros de relance, hein,
oui,
pour les entreprises sans aucune contrepartie. Donc, quand on dit 9 milliards pour les pauvres, c'est un scandale. Non, c'est rien par rapport à ce qu'on doit donner aux entreprises. Sachant que dans cette même note, Louis Morin a rappelé que cette partie des aides ont été dans les mains et dans les poches des actionnaires. Donc, n'ont pas créé d'emplois réels. De soutien à l'emploi et à l'activité économique. Hein. Voilà.
Très bien. Mais écoute, je te remercie. Reste avec nous parce qu'on va reprendre la parole. On va écouter une petite chanson et ensuite on reprend la parole. Merci.
Oui. Wonderland, winter wonderland.
Are you listening? In the wonder, in a winter wonderland.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM et c'est toujours l'émission Mode d'emploi. Nous sommes avec Gilles. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Christophe au téléphone. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Douce, Claude à la technique et moi-même Ludovic côté. J'allais dire au téléphone, mais non du tout. En direct du studio de FPP. Et donc on va reprendre cette émission en parlant un peu de l'accord sur le télétravail, puisque comme malheureusement nous le savons tous maintenant, le télétravail est entré dans les mœurs, contraint et forcé, et les entreprises, l'État a trouvé tout d'un coup toutes les vertus possibles au télétravail, au tel point qu'il s'est senti un peu obligé de réglementer le sujet. Alors il avait commencé, et c'est très récent quand même, le travail. Alors évidemment, pour tous ceux qui des gens un peu sensés, qui ont un peu la tête sur les épaules, comme enfin pas comme nous on va dire, hein, des gens voilà, qui ont parfois un cigare dans le bec ou qui sont en costard cravate, ils vous diront quand même que le télétravail, il y a un souci. Avant le confinement, ils vous auraient dit que le télétravail, il y a un souci, c'est que il y a aucun contrôle sur le salarié, et le salarié il fait ce qu'il veut. Logique.
Oui, bien sûr.
Normal qu'on pense des choses comme ça. Oui. Le salarié a plutôt tendance à être un tir au flanc.
Voilà, d'accord. Exactement.
Okay.
Sauf qu'ils ont quand même des objectifs à tenir et qu'en général, c'est là-dessus qu'ils sont notés. Oui.
Eh bien, il y a un truc qui s'est passé avec le confinement, c'est que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été menée par la Direction Générale du Trésor, le ministère des Finances, donc... Bah, pas des rigolos, hein, a priori, hein, un truc c'est de compter. Les gens qui sont en télétravail, et ça je crois qu'on l'a tous subi, on l'a tous compris, il y a un accroissement, si tu veux, entre 5 et 30% de productivité. Alors, enfin, pardon, excusez-moi, un temps de travail, excusez-moi, non, je parle pas de productivité, de temps de travail effectif augmenté. Donc, les travailleurs qui sont en télétravail travaillent entre 5 et 30% de plus supplémentaires. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est qu'évidemment, il y a le temps qui n'est pas passé dans les transports, qui tout d'un coup permet directement... C'est l'évidence. Hein. Et puis, deux, il y a une espèce de pression, si vous voulez, qui fait que la personne n'est pas avec ses collègues, en fait, ses coéquipiers. Justement, on n'a pas de contrôle, intériorise cette contrainte en fait, de l'autonomie. Mm-hmm. Hein, du salarié, c'est la servitude volontaire, comme
c'est ça,
les autres.
Oui.
Absolument.
Voilà. Et donc,
il y a un processus de culpabilisation qui inconscient qui se met en place.
Absolument. Ouais. Mais voilà, et puis aussi une peur du vide, hein, bien sûr, et besoin de rendre des comptes. Alors il y a certaines catégories professionnelles qui savent ça depuis longtemps, hein, mais comme elles sont très marginales, on ne parle jamais d'elles. Et du coup, il y a un investissement plus important du travailleur qui compense ainsi son absence physique, et par ailleurs le travailleur serait plus concentré chez lui.
Absolument.
C'est ce qui est assez étonnant.
Alors si je puis me permettre, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que là, dire et annoncer que la France vit une crise, et je parlais d'enrichissement notamment des entreprises du CAC 40 et tous ceux qui bénéficient des effets entre guillemets positifs du capitalisme mondialisé, c'est que cette augmentation, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on parle de fait de ces études d'augmentation de la productivité des salariés, alors
enfin, de leur temps de travail aussi.
Leur temps de travail, alors qu'on est soi-disant dans une crise du travail, ce qui est complètement contradictoire.
Oui.
Totalement contradictoire. C'est là où on voit bien la stratégie que dénonçait Mélanie Klein dans son livre La stratégie du choc, à savoir que chaque crise est un moyen pour ceux qui s'accaparent le capital, hein, le fonctionnement du capital, d'accroître les potentialités de productivité et de richesse.
Ben c'est exactement ça. C'est finalement l'idée, dit simplement, c'est grosso modo, plus tu travailles et meilleurs sont, je sais pas, les résultats, les dividendes. Mais en fait, finalement, chaque crise, à ceux qui ont un travail, leur font intérioriser les contraintes de la crise. Et les font travailler plus. On a vu ça très clairement dans les années 90, en 2008, et là on est dans une période où tout à fait on a des gens qui sont dans ce style, et en plus qui parfois pour qui le travail peut potentiellement être un échappatoire. Alors je vous dis pas d'un point de vue familial le cauchemar que c'est, c'est-à-dire que votre lieu de travail est votre lieu et votre lieu de vie. Donc si vous êtes normalement constitué au bout d'un mois, votre travail c'est votre lieu de vie, c'est un bordel innommable parce que vous n'avez pas forcément l'énergie une fois que vous avez fini de travailler d'aller faire autre chose.
Exactement.
Ce que vous faisiez avant du fait de la coupure. Et entre autres aussi de s'écouper de s'occuper de sa vitamine. Donc c'est pour cette raison que le rapport en question recommande, il a recommandé au moment des négociations de bien mettre une limite, c'est-à-dire 3 jours maximum de travail, c'était déjà le cas dans la loi,
de façon
à ce que. Mais la limite en question est intéressée.
Parce que,
soi-disant, des études, c'est bien, parce que des études, enfin alors là, c'est pas une étude, mais plutôt des prospectives, c'est qu'en fait, on s'est aperçu quand même d'un truc étonnant, c'est que le télétravailleur souffrait d'isolement. Un truc fort étonnant.
Bah oui, parce qu'il y a quand même besoin de socialisation.
Pour le travail.
Pour le travail.
Parce que la socialisation, on s'en moque, mais pour le travail. D'accord.
Pour le travail.
Oui, quand même.
C'est vrai.
Et donc, pas de socialisation pour le travail, c'est-à-dire pas de travail d'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un manque de créativité, un manque d'imagination, un manque de motivation, on va presque dire ça, un manque d'idées nouvelles. Le rapport dit que ça serait quand même bien si on pouvait discuter à la cafette pour avoir des nouvelles idées. Et ça, c'est fort dommageable, écrit toujours le rapport, pour l'avenir, puisque en termes d'innovation, quand les gens travaillent en équipe, c'est quand même... vachement mieux, quoi.
Bien sûr, oui.
Oui.
Voilà.
C'est systémique, hein. C'est prouvé scientifiquement.
Ouais, moi je sais pas, mais bon, peut-être. En tout cas, toujours est-il qu'on est en train de découvrir, c'est une vraie révolution quand même. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir les vertus du travail et pas trop de voir, moi je dirais, les inconvénients sociaux. Enfin, les employeurs les voient bien quand même, les administrations surtout les voient bien. Et donc aborder ça juste sous l'angle économique tel que l'a fait le font certains, en l'occurrence la direction du travail, alors qu'il s'agit avant tout de conditions de travail. C'est-à-dire de savoir comment tu peux effectivement réglementer le travail de façon à garantir la santé du salarié. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui laisser l'autonomie montre bien qu'en réalité, il travaille plus. C'est qu'il a une conscience de son travail. Et s'il y a un enseignement à ça, c'est quelqu'un qui...
D'ailleurs, préciser un point extrêmement important, c'est qu'on oublie, hein, c'est que dans cette histoire, les entreprises, pour la plupart d'entre elles, et c'est pas une critique, sont dans l'illégalité. Parce que que dit le Code du travail ? Quand tu télétravailles chez toi, donc il y a 3 jours, mais tu dois avoir une pièce dédiée, du matériel dédié, payé par l'employeur,
exactement.
Plus, etc. Et la majorité d'entre elles, du fait des circonstances du coronavirus, n'ont pas investi sur le matériel et les conditions nécessaires.
Alors, c'est tellement vrai que la CGT n'a pas signé l'accord, et elle ne l'a pas signé parce qu'elle a estimé qu'il n'y avait aucune clause contraignante, sérieuse,
absolument,
en dehors des 3 jours.
Absolument.
C'est-à-dire, par exemple, l'ordinateur, si on n'investit pas dans un ordinateur, c'est l'ordinateur personnel. En cas d'accident et de perte de données, qui est responsable? Le salarié. En cas d'accident
absolument.
Du travail...
Ça
dans
peut être
son...
un motif de licenciement. Hein.
Exactement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et en cas d'accident du travail, parce qu'évidemment, si vous restez un certain nombre de jours quand même en télétravail, vous pouvez avoir un burn-out, c'est possible, ou une maladie professionnelle,
bien sûr.
C'est chez vous. Si l'employeur refuse de reconnaître qu'il a une responsabilité, y compris chez vous, et c'est le cas actuellement, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale, votre maladie professionnelle, votre burn-out, votre prise en charge maladie peut être problématique. Et alors, c'est ça qui est très étonnant, c'est que les assurances privées ont compris, avant tout le monde, qu'il y avait potentiellement un risque d'avoir autant de gens dans leur logement, à faire. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Ils pouvaient mettre le feu à leur logement, il pouvait y avoir conséquences, des choses. Donc, ils ont envoyé des attestations d'assurance pour dire qu'ils couvraient. C'était des mutuelles privées, qui ouvraient les gens de travail. Et on a des employeurs et l'État qui se refusent à reconnaître sa responsabilité sur des employeurs qui iront télétravailler au prétexte, entre guillemets, que c'est leur responsabilité. Écoutez, c'est bien dommageable parce qu'on a bien vu qu'il y a des circonstances exceptionnelles où il vaut mieux qu'une partie de la population télétravaille.
Mais il y a surtout aussi toutes les personnes qui sont isolées, qui sont par exemple les mères isolées avec un enfant à charge.
Oui, qui pour elles, ça s'adapte parfaitement, effectivement.
Tout à fait.
C'est tout à fait recommandé.
Et il y a les problèmes de posture aussi devant l'ordinateur. tout ce système aussi où on fait des vidéoconférences à la noix où ça fonctionne une fois sur deux parce que ça marche pas très bien. Tout ça, c'est un manque. C'est vraiment jeter à l'argent par les fenêtres quelque part pour les employeurs de permettre quelque part. Parce que s'ils donnent pas de l'argent...
Sur la question en termes d'équipement, de confort, de travail, qui veille bien, oui. Oui, alors après, on a bien conscience que ça pose des problèmes juridiques importants. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le CHS devrait pouvoir voir les logements. Donc ça, c'est toujours problématique. Et puis, mais il y a toujours quand même cet aspect disciplinaire, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont vous dire, si vous êtes en télétravail, on peut vérifier que vous êtes connecté.
C'est ça.
Mais absolument, mais c'est pas ça, c'est que derrière, pourquoi les employeurs n'ont pas joué le jeu? Parce que pour eux, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est un coût financier. Voilà, équiper les salariés en télétravail avec l'ordinateur portable adéquat, relié avec les logiciels professionnels, etc., etc., c'est un coût.
Oui, mais un salarié qui travaille mieux, il est plus productif. Exactement. Et ça, il devrait l'intégrer aussi, quelque part.
Donc là, c'est quand même dingue cette histoire de télétravail parce que les gens qui sont 8 heures sur la journée devant un ordinateur, ils finiront par avoir des soucis au niveau des yeux. Enfin, ils vont perdre éventuellement de la
vue. C'était déjà le cas dans les bureaux.
C'était déjà le cas dans les bureaux, mais avant, quand tu télétravaillais, c'était uniquement les handicapés qui ne pouvaient pas travailler en entreprise, qui étaient restés chez eux.
Non, c'est pas vrai. Pour les mères de famille, il y avait des négociations. Du tout. Non, mais il y a des entreprises qui étaient en pointe quand même.
C'est nouveau culturellement, parce que ça s'est massifié, mais c'est pas au niveau des textes réglementaires et du code du travail.
Tout à fait. Il y a un vide juridique.
En tout cas, on peut toujours éventuellement, ça je donne, c'était une information pour tous ceux qui sont en télétravail. Déclaration d'impôt, vous pouvez donner, dire que vous travaillez chez vous et vous dédiez une pièce.
En frais réels,
vous dédiez une pièce au travail et donc vous paierez donc moins d'impôts.
Mais il faut que ce soit plus rentable que les 10% des cotes et donc il faut bien faire son calcul.
Très bien. On écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Claude à la technique. Bonjour Claude. Gilles également, moi-même au micro. Et bien sûr Christophe au téléphone. Bonjour à tous.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci de nous suivre dans cette émission. Donc Ludo, tu voulais intervenir sur...
Oui, je veux juste une petite brève qui, je ne sais pas si elle est peut-être passée inaperçue, mais c'est concernant les prisonniers. Le lundi, le Conseil d'État a jugé que les prisonniers ne méritaient pas de congés payés lorsqu'ils travaillaient en prison. Malheureusement pour eux, puisqu'elle a dit que quand même, il ne fallait pas exagérer, ces gens ne travaillaient pas vraiment, et que s'ils travaillaient, parce qu'en fait ils travaillent quand même, pas beaucoup, et bien s'ils travaillaient, c'était juste pour préparer leur réinsertion.
D'accord.
Et donc en fait, la juridiction quand même tranche sur une question, parce que ça doit être suite à un recours... de prisonniers qui ont fait valoir quand même que peut-être qu'ils se trouvaient exploités, peut-être un peu, et qu'en plus ils avaient besoin quand même d'argent pour avoir un niveau de vie en prison, entre guillemets, des cigarettes, une télévision, des choses comme ça, pour maintenir leur niveau de vie. Et donc ils ont fait valoir des revendications syndicales et sociales auprès de l'administration pénitentiaire et évidemment auprès du Conseil d'État. Donc le droit du travail, c'est un scoop, ne s'applique pas en prison. Ça c'est jugé une bonne fois pour tout. Ils n'ont pas le droit à des congés payés. Leurs heures de travail ne doivent pas, tout de même pas excéder ceux pratiqués en milieu libre. C'est bien la moindre des choses, on a envie de dire, dans le type d'activité considérée. Alors, je sais pas s'ils prennent la convention collective, moi je m'inquiète pour eux. Mais bon, les conventions collectives, parce qu'elles varient en fonction des secteurs. Et le respect du repos hebdomadaire et du jour férié doit être assuré aux travailleurs. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on est exploité aux dernières nouvelles. On peut toujours rêver. À rappeler le Conseil d'État. Le droit du travail ne s'applique pas en prison, donc déplore l'Observatoire des prisons. Ainsi, outre les congés payés, les détenus qui travaillent ne peuvent prétendre au SMIC, à l'assurance chômage ou au versement d'indemnité en cas de chômage technique, d'arrêt maladie ou d'accident du travail ne peuvent pas non plus se prévaloir des règles encadrant les procédures de licenciement ou des droits syndicaux. Vous êtes en prison, vous travaillez, vous êtes licencié. Et oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire après ? Ça se trouve, le travail, c'est un bien précieux en prison, mais voilà. Alors, l'OIP, hein, rappelle que quand même, c'est une des rares sources de revenus pour les détenus. Puisqu'il y a quand même un minimum hein, à gérer, c'est-à-dire malgré la raréfaction de l'offre, la précarité des conditions de travail et la faiblesse des rémunérations, le travail est très prisé en prison, on s'en doute, hein, c'est-à-dire qu'il faut de quoi s'occuper et sortir en fait, de cellule, et il reste une des seules sources de revenus pour faire face aux dépenses de la détention, des achats de produits de première nécessité, des locations de télévision, des réfrigérateurs, des frais de téléphone, etc., ou subvenir aux besoins des proches à l'extérieur. Voilà. Donc il y avait en 2018 à peu près 19 000 personnes qui disposaient d'un emploi en détention pour plus de 70 000 personnes incarcérées. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en fait hein, finalement. Et de 46,2% en 2000, le taux détenu bénéficiant d'un emploi est tombé à 28 000 28 ans plus tard, 28%. Donc effectivement, c'est un gros problème parce qu'il y a des employeurs qui abusent, des sociétés extérieures qui pourraient abuser de l'emploi. Donc voilà. Mais voilà, si on les payait bien, et ben les sociétés en question pourraient exploiter comme tout le monde les prisonniers, comme elles exploitent les salariés à l'extérieur.
Alors une dernière annonce avant de... Oui. Une dernière annonce pour finir cette émission. Donc n'oubliez pas, donc, c'est donc demain le 5 décembre, c'est pour lutter contre l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. C'est en Ile-de-France le 5 décembre à 14h à Porte des Lilas. N'oubliez pas d'y aller. Alors, juste, tu voulais juste une petite note.
Oui, un petit rappel. Le Monde diplomatique avait sorti il y a quelque temps, mais il n'y a pas longtemps, un hors-série qui s'appelle "Faut-il payer la dette ?" dans Manière de voir. Et donc, je le recommande. Il est super. Si vous voulez tout savoir sur la dette des Mésopotamiens jusqu'au pays du tiers-monde dans les années 80, achetez celui-là puisque c'est un sujet qui va venir bientôt sur le tapis et que vous êtes tous concernés comme nous tous.
Merci Ludo. En tout cas, merci à tous les trois d'être avec moi dans cette émission. Merci à messieurs, dames de l'avoir suivi. Je vous dis à dans un mois, bien sûr. Et merci à Christophe au téléphone. Voilà.
Ouais.
Je vous dis à dans un mois. Et bien sûr, je vous souhaite... Donc, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien parce que les années vont devenir difficiles. Souper. Voilà. Merci
bonne
à
soirée.
Tous. Bonne soirée. Au revoir.
Reste contexte, voilà.
Bisous, pieds et poignées de main, garçon. Ciao.
Au revoir.
In every corner for my lost heart and soul. Now hear me begging, please.